Bonjour, bienvenue à Aime l'été, mercredi, déjà le milieu de la semaine, ici Chantal Lavoie. Une prochaine heure un brin nostalgique, le cinéma en plein air nous rappelle des souvenirs d'enfance. Dans notre cour arrière ou dans un parc l'été, il y a une magie à assister à une projection extérieure avec nos amis. On va parler aussi de mémoire et de Montréalité, un retour sur le passé qui va au-delà de la nostalgie. Et les passionnés de BD, de jeux et d'animations japonaises seront ravis. Le plus grand festival du genre s'installe à Montréal. Mais d'abord, on prend le pouls des Jeux olympiques de Paris avec l'ambassadrice d'un événement dédié à la culture québécoise et canadienne. Jusqu'à 13h, suivez-nous à Aime l'été. Eh bien, à l'émission aujourd'hui, nous allons accueillir Catherine Charlebois, responsable des collections, expositions et programmes du MEME, le Centre des mémoires montréalaises ouvert au public depuis l'an passé, un musée qui vise à préserver l'histoire de la métropole et faire connaître la diversité de ses patrimoines. Également des films d'animation dans votre cours cet été, Ciné-Ruelle est de retour pour le plus grand bonheur des jeunes. On reçoit le directeur général de cette 4e édition, Clément Lacroix, et le plus grand festival de culture japonaise débarque au Palais des Congrès en fin de semaine. Otakuton nous revient pour une autre édition. C'est Stéphane Latour, coprésident, qui sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, des nouvelles de Paris. On va s'entretenir dans un instant avec l'animatrice Geneviève Borne, qui est l'ambassadrice du festival Scène Canada en marge des Jeux olympiques. Promouvoir notre culture et nos artistes dans un lieu unique, c'est le beau mandat qu'elle a eu, en fait, qu'elle a en ce moment. Alors soyez des nôtres à Aime l'été. Alors, ben, on va commencer avec notre... En fait, on devait commencer avec Geneviève Borne, qui est à Paris. On comprend que c'est pas évident là, de joindre Geneviève à Paris.
Alors, mais là, je suis en contact avec elle, sauf que le problème, c'est ça, problème technique. Là.
Finalement, c'est texto qui est plus facile. Il faudrait se parler par texto.
Elle veut nous parler, là, mais oui, ça fonctionne
elle
pas.
Elle est au bout de son téléphone, mais par texto, pas par téléphone.
Misère.
Misère, oui. Mais c'est pas grave, parce qu'on a notre invitée qui est là en studio. Alors, j'accueille présentement, on va accueillir oui, Stéphane Latour du festival Otakuton. Est-ce que je le dis comme il faut?
Oui, vous le dites bien comme il faut. Okay. Otakuton, c'est très facile à prononcer en français.
Bon, merveilleux. Alors ça, c'est un événement qui célèbre un phénomène culturel, évidemment, qui dure depuis longtemps quand même, cette culture japonaise qui est entrée dans nos vies quand on était jeunes, hein, avec les Pokémon et tout.
Mon Dieu, oui, j'ai grandi avec les Pokémon et j'ai pas compris que c'était des animés de source japonaise jusqu'au moment où j'ai visité le premier festival Otakuton qui s'est passé à Concordia. J'en ai vu, j'ai vu. Oh mon Dieu, finalement, c'est ça. Alors, ça faisait juste partie du paysage. C'était TQS le matin, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Ben, il y avait, bon, tu sais, les mangas et tout. En fait, toute cette culture-là, les jeunes connaissent bien encore. C'est vraiment très populaire. Et puis, ben, ça fait longtemps. Et puis, à quel âge vous avez découvert tout ça, finalement?
Découvert sans le savoir, plutôt jeune. C'était ce qui roulait le matin avant l'école.
Ah, d'accord. C'était vraiment Pokémon, par le biais de ces dessins animés japonais.
Oui, précisément.
Qui avaient toute une autre couleur. Moi, je me souviens de... Ben, je pense que toutes les Maya l'abeille, c'était japonais, ça aussi.
Les Maya l'abeille?
Je ne sais pas.
Je ne saurais dire. Je peux vous assurer que Pokémon, Dragon Ball,
Pokémon,
Sailor Moon...
Mais les Pokémon, c'est vraiment, oui, c'est vraiment dans la culture. Alors, effectivement, depuis 2008, là, l'événement se déroule chaque été au Palais des Congrès, mais comme vous le disiez, avant ça, c'était à l'Université Concordia.
Oui, en effet. Nos premières deux éditions étaient à Concordia, et pour le troisième, on a dit au club d'animé de Concordia à l'époque, vous ne faites plus ça ici, on n'a plus de place.
Non, mais oui, parce que ça attire de plus en plus de gens. Écoutez, Alors, justement, la première édition qui avait lieu à l'Université Concordia a attiré à peu près 1800 personnes.
Oui.
Et puis là, je regarde, là, 2008, vous montez déjà à 3002. Là, vous êtes rendu au Palais des Congrès. Et là, 2012, la sixième édition, 10 000 participants et participantes. Oui. C'est fou. Et puis, eh bien là, évidemment, là, vous accueillez combien de personnes?
L'année dernière, on a accueilli 35 000 personnes, hausse de 29 000 l'année d'avant. Alors, reste à voir ce qui se passe cette année. D'après ce qu'on voit avec nos statistiques de préinscription, les choses roulent bien.
C'est ça. Donc, évidemment, vous vous êtes quand même, vous avez présenté une édition même pendant la pandémie en virtuel. C'est quand même, c'était tout un défi, mais vous l'avez relevé brillamment.
En effet, c'est notre équipe, tout crédit à notre équipe technique, à notre équipe des invités. Ça requiert beaucoup de, comme vous avez dit tantôt, travailler à distance, ça peut être compliqué, mais ça se fait par texto, ça se fait par vidéo. On a pu utiliser des salles d'enregistrement pour faire plusieurs choses d'avance, préparer des salles de jeu à distance. Ça n'a pas été très, très populaire, mais ça a été assez populaire pour qu'on puisse continuer après la fin de la pandémie.
Continuer à vous faire connaître, et oui, parce que de toute façon, je pense que vous maintenez quand même une certaine... en ligne, il y a quand même plein de choses auxquelles on peut avoir accès, je pense.
Hein? Oh mon Dieu, même oui, encore, c'est la façon principale de pouvoir accéder au monde des animés, des mangas.
C'est ça. Des gens, par exemple, qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer sur place, alors ils ont accès à cet événement-là, cette culture-là. Alors, mm-hmm. Il y a plein de choses. Évidemment, des invités, des invités internationaux.
Mon Dieu, oui.
Il y a évidemment du jeu vidéo, il y a mm-hmm. de tout. Alors, racontez-moi, j'imagine que chaque année, vous bonifiez votre offre. Ça se peaufine. Est-ce que les gens sont de plus en plus exigeants en passant?
Les gens, quand ils voient qu'on peut réussir quelque chose, en demandent plus l'année dernière. C'est la nature de la chose. Alors, d'année en année, on essaie d'avoir des excellents concerts, souvent qui viennent d'outre-mer ou sinon certains actes locaux. On essaie d'avoir une salle des exposants qui est encore plus grande, bien organisée, fascinante, plein de choses à découvrir.
Plus facile à découvrir, oui, effectivement. Et puis, vous avez toujours votre orchestre de jeux vidéo.
Oui.
Ça, c'est intéressant aussi.
Ils travaillent avec nous. C'est des partenaires de longue date. On les apprécie grandement.
Ah là là. Donc, la musique de jeux vidéo, c'est très présent dans l'imaginaire des jeunes. Et d'ailleurs, on doit dire que souvent, on pense les jeunes, en fait, ne réalisent pas à quel point... des fois, on parle de musique classique et tout, mm-hmm, la musique mm-hmm. d'orchestre. Pas la musique classique, mais la musique d'orchestre.
Oui, oui, oui.
Souvent, ça semble pas vraiment être le dada des jeunes, mais au fond, ils en écoutent régulièrement par le jeu vidéo, justement.
En effet, toute musique est une question de mathématiques, et surtout, tôt dans l'évolution des jeux vidéo, la mélodie était une section très importante de la pièce, donc le de Mario ou d'autres thèmes. Voilà.
Oui, c'est ça, toi.
Voilà.
Nathalie, le jeu vidéo. Ouais,
moi,
toi,
je connais ça.
Tu connais bien. T'es une joueuse de jeux vidéo.
J'ai joué beaucoup. En fait, j'ai joué beaucoup parce que j'ai un fils qui a aujourd'hui 34 ans.
Ah, ben,
alors, même âge que moi. Mario Kart. Bonjour. Alors, je pourrais être votre mère. Là, c'est ça, Mario Kart, Donkey Kong. Alors, mm-hmm. oui, effectivement, c'est un univers en vieillissant, Halo. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. c'est un univers fascinant pour les jeunes et moins jeunes, parce qu'aujourd'hui encore, je pense à mon fils, ils se font des fois des soirées, ils jouent des jeux. Et moi-même, en famille, j'ai une console à...
Une Switch?
Switch, oui, c'est ça. Oui. Fait que même encore à mon âge, je suis intéressée par tout ça. Je trouve ça fascinant, moi.
C'est excellent pour construire des communautés, faire quelque chose de régulier.
Oui,
c'est essentiellement, venez chez nous, partager une pizza, allons-y.
Oui,
ou sinon, en ligne, venez sur notre canal, on va se parler.
Moi, je fais juste dire, mon fils est devenu bilingue en jouant. Il était bon en anglais, mais mon fils, en jouant à des jeux en ligne, il est devenu bilingue parce que tu parles à des gens de partout dans le monde.
Oui, plus que tu utilises ta langue, plus elle vient naturellement.
Exactement. Surtout quand on a un intérêt commun comme ça, c'est d'autant plus facile. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait la particularité de cette culture japonaise? Qu'est-ce qu'elle a, cette culture japonaise qui se répand dans le monde et qui attire tant les gens?
Je dois dire, c'est une culture vibrante, coloriée, spectaculaire. Elle ne se gêne pas. Quand ça se passe par animation, on peut faire tout ce qu'on imagine. Et après qu'on a imaginé quelque chose, d'autres gens jouent dans l'espace et éventuellement trouvent de nouveaux horizons.
Ouais.
Et il y a aussi un cachet culturel. C'est le Japon qui s'exporte quand ils font des mangas, des animés. On peut voir des choses comme des festivals traditionnels qui se passent en arrière-plan. Ou pourquoi est-ce qu'il y a toujours un épisode où tout le monde va au bain chaud? Oh mon Dieu.
Les saunas.
Les bains,
oui,
saunas.
C'est ça.
Exact. Ouais.
Désolé. Parce qu'il y a beaucoup d'eau de source volcanique. Et
c'est ça.
Voilà quelque chose qui est local. Mais c'est toujours ces petits cachets-là qui existent dans le monde. Et ce qu'on invite essentiellement, c'est si vous avez été attiré par tout le mouvement, tout l'enthousiasme que mettent les animateurs.
Puis il y a toute cette culture, je ne sais pas moi, de, évidemment, ça fait très jeune aussi, tout le visuel de ça, le monde des poupées. Hein, on pense même aux jeunes filles qui s'habillent en
manga.
Les mangas.
Les mangas.
C'est ça, exactement. on les voit, oui. Puis il y a des groupes aussi qui
se déguisent, qui font du cosplay. Costumadiérisme. Je ne sais pas. Je sais que le mot est costumadier en français, on l'utilise très peu.
Vous êtes même coloré dans votre langage, finalement. Vous inventez des mots, c'est merveilleux.
Je crois qu'il existe vraiment ce mot.
C'est possible. Maintenant, ça fait partie de l'ère rose, potentiellement. On peut y aller pour l'édition 2025.
Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette culture-là a même influencé des cinéastes bien connus. On pense à Tarantino, quand même. Dans toute son esthétique.
En effet, beaucoup de
références aussi au manga.
En effet, au manga, aux animés, il y a plusieurs références qui existent, dont la série de jeux Dark Souls n'existerait pas sans Berserk, un manga de longue date qui a une esthétique très brutale. Et d'autres cinéastes comme les sœurs Wachowski qui ont travaillé sur la Matrice ont été inspirés par des produits cyberpunk, le thème de l'année. Comme Ghost in the Shell ou Akira. Akira, qui est une production japonaise qui a fait beaucoup parler à l'époque. Et je me rappelle, à un moment donné, quand je parlais avec plusieurs représentants de la législature québécoise, leur référence en animé et en culture, c'était « Ah oui, Akira, oui, je me rappelle de l'avoir vu.
» Exact, oui. Alors, Nathalie, as-tu trouvé?
Alors, j'ai une réponse pour vous. Vous êtes très bon en français.
Oh.
Alors, costumadière. Alors, la définition, c'est la costumade. La costumade est une activité axée sur la personnification des personnages fictifs de l'univers de jeux vidéo, de bandes dessinées ou de films d'animation.
Ah bon?
Alors, bravo. Donc, la costumade.
La costumade.
On va se coucher plus intelligent ce soir.
Alors, on va en avoir des milliers.
Oh, il y en aura énormément de costumades. Je rigole toujours en disant à chaque année, si vous voulez voir quel est l'enthousiasme qui est géré par des événements comme Otakuton, comme Comic-Con, comme d'autres espaces de même, cherchez les costumadiers. On en a à chaque année en grand nombre. C'est colorié, c'est divers, c'est fantastique. Et des fois, c'est un peu effrayant ce qu'on peut réussir à faire avec un peu de construction et tout ça.
Puis vous avez des mascottes sur place aussi.
Oui, absolument. On a des images de mascottes. Il y a toujours des costumadiers qui s'affairent à se déguiser comme nos mascottes, chose qu'on apprécie grandement. À chaque année, je peux dire que notre représentante de la marchandise, Anura, s'assure toujours de prendre des photos parce qu'elle est très souvent en train de vendre ces produits-là, en train de faire passer des choses avec nos mascottes ou d'autres choses de ce genre. On a trouvé des choses très intéressantes cette année et on a hâte de partager ça avec tout le monde.
Parfait. Et en fait, votre spécificité, c'est que finalement, c'est vraiment plus axé sur la culture japonaise, contrairement au Comic-Con où c'est ouvert, c'est autre chose, c'est une autre, approche. Ça peut faire partie, la BD japonaise ou les mangas font partie aussi de cet événement-là, mais vous êtes beaucoup plus focusé sur la culture japonaise.
C'est ça. On apprécie les Spider-Man, les Superman qui passent. On n'est pas là pour les fermer les portes à personne, mais en travaillant sur la culture japonaise, en travaillant avec le consulat du Japon à Montréal, on peut offrir des programmations qui cherchent à épanouir un peu, à mettre de l'expansion sur ce que les gens savent du Japon, sur ce que les gens ont vu. Par exemple, des cérémonies de thé, des démonstrations d'arts martiaux, de danse qui sont prévues cette année. Et on a mentionné tantôt la jeunesse. C'est notre 19e édition. Certains ont grandi avec Otakuton et maintenant, on a une zone spécifiquement pour les jeunes. Ce n'est pas une garderie. Ne laissez pas vos enfants là. Ce n'est pas une garderie, mais la Chibi Zone est ouverte. On travaille avec la BANQ, merci beaucoup, pour créer un espace où les jeunes peuvent trouver des activités style animé pour s'amuser, pour passer un peu de temps. Quoi.
Alors, c'est un événement qui se déroule en fin de semaine. Alors, c'est du 2 au 4 août. Bien ça commence vendredi au Palais des Congrès. Alors, évidemment, il y a des ateliers, c'est sûr, mais là, il fallait aussi penser des fois à s'inscrire s'inscrire parce que ces ateliers-là deviennent aussi très, sont très populaires souvent?
En effet, il y a 4 ateliers en particulier qui ont des places très limitées qui deviennent très populaires. Donc, cette année, on a installé une loterie spécifiquement pour ces 4 ateliers-là. Il y a 10 instances qui vont arriver au cours de la fin de semaine. Vous pouvez suivre sur notre site web pour juste vous inscrire et indiquer à quel atelier, parenthèse S, vous voulez participer. Et si vous gagnez, admettons, si vous réussissez à entrer dans Pocket Terrarium, vous serez enlevé de la considération pour les autres Pocket Terrarium, mais les autres vont aller. On vous souhaite une grande chance.
Pocket Terrarium.
Pocket Terrarium, oui, c'est facile.
Oh là là!
Alors, non, c'est oui, très, c'est... très populaire.
Bon, là, je pense qu'il va falloir faire un tour au Takouton.
On serait ravis de vous y voir.
Bien sûr. Alors, le plus grand festival d'anime au Canada, c'est comme ça qu'on dit ça?
Oui, ben, je sais qu'on est le plus grand festival bilingue, le plus grand festival d'animation japonaise au Canada, j'hésite encore.
Bilingue à tout le moins.
Oui, bilingue à tout le moins.
Alors là, on est correct.
Voilà, on travaille en français. On est capable de se parler en français, on s'exprime.
C'est merveilleux.
Ça marche.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Stéphane Latour, donc co-président de l'événement. Puis on va vous voir en fin de semaine.
C'est un plaisir d'avoir été invité. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, on accueille, bien sûr, notre deuxième invité. Finalement, on est un peu sur des chapeaux de roue, mais il y en a une, en tout cas, qui, effectivement, est un peu sur des chapeaux de roue aussi. Elle était sur la scène, à la fois la scène sur la scène à Paris. Geneviève Borne, bonjour.
Bonjour, je suis en effet sur la scène à Paris en ce moment même. J'envoie des beaux bonjours aux bateaux mouches qui passent.
Hey, on t'envie, Geneviève, là, on t'envie. Et on n'a pas réussi à te rejoindre tantôt parce que tu étais en train de présenter une artiste.
Oui, Alana Sterling, une Ontarienne. En fait, je suis ici dans le cadre du festival Scène Canada. Uh-huh. C'est un festival qui se déroule tout le long des Jeux olympiques et paralympiques. Ça se passe sur la scène, c'est au Fluctuaire, qui est une galerie d'art flottante, amarrée au quai à côté du pont des Invalides. Puis il y a une programmation tous les jours, et donc en ce moment, c'est la chanteuse canadienne originaire de l'Ontario, Alana Sterling, qui chante en ce moment. Et puis, oui, je l'ai présentée parce que je suis la porte-parole de l'événement, mais je sers aussi d'animatrice sur les lieux pour présenter les différents artistes, faire des entrevues, tout ça.
Oui, mais tu fais aussi, tu es en même temps DJ, tu présentes la musique également.
J'ai fait un set de DJ et uniquement en français. Ah. Et j'adorais l'idée de jouer des classiques québécois sur la scène à Paris. Tu sais, juste pour que vous imaginiez, là, je suis située entre le Grand Palais et les Invalides,
ben
le magnifique dôme des Invalides. Directement sur l'eau, puis...
Le pont d'à côté, c'est Alexandre III. Alors, évidemment, ça nous situe un peu.
Ouais,
effectivement, on a une vue sur le Grand Palais et tout. C'est magnifique. Alors, on t'imagine très bien. Et ça, c'est un endroit, évidemment, Fluctuaire. Donc, tu as parlé galerie d'art, mais c'est un lieu vraiment de rassemblement. On peut y manger, on peut y boire. C'est vraiment très festif comme lieu.
Oui, c'est un lieu qui est déjà très populaire, qui existe depuis 5 ans déjà. Donc, c'est un centre d'art contemporain. Donc, il y a toujours des expositions, mais il y a souvent des DJ et des prestations musicales aussi. Puis, c'est justement pour ça que c'est ici que Scène Canada s'est installé, parce que c'est un lieu parfait pour accueillir des gens qui veulent découvrir de la musique, faire la fête. Donc, il y a une belle programmation qui s'adresse aux gens qui viennent faire un tour au Fluctuaire, soit qui connaissent déjà l'endroit ou bien qu'ils ont entendu parler du Festival Scène Canada. Puis là, ils savent que ben, tous les jours, il y a quelque chose. Il y a tout le temps un DJ ou un artiste en prestation musicale.
Tout à fait. Et pas n'importe lequel, là. Ce sont des artistes connus aussi, des Français. Cœur de Pirate qui a entamé finalement les prestations. Robert Charlebois va clore le festival, je pense.
Exactement. Donc, dimanche soir, c'est Cœur de Pirate qui a chanté sur le toit du Fluctuaire. Puis, c'était génial parce que il y avait, bon, les gens à bord du Fluctuaire qui pouvaient la regarder, mais tous les gens qui passaient sur le pont des Invalides la voyaient et donc découvraient qu'elle était en spectacle. Elle est très connue ici, donc c'était une belle surprise pour bien des gens. Et on les voyait sur le pont en train de chanter les paroles de ses chansons. Et elle-même a adoré l'expérience d'être entourée comme ça de gens dans un contexte quand même inusité sur le toit d'une structure comme ça, sur la scène. Elle adorait ça. Elle disait que c'est drôle parce qu'elle s'appelle Cœur de Pirate, mais c'est la première fois qu'elle chantait sur un bateau.
Elle a un peu le mal de mer, je pense.
Elle a un peu le mal de mer, en effet, oui, en effet.
Très drôle.
Puis à la fin du mois d'août, ben ça va être Robert Charlebois dans le cadre des Jeux paralympiques.
Oui, c'est ça. Et puis il y a l'Opéra Albertine en 5 temps aussi qui était présenté, qui faisait partie de la programmation. Oui. Intéressant.
Ça s'en vient un peu plus tard, au mois d'août, Albertine en 5 temps, qui va être présentée quelques soirs ici. Donc, c'est l'œuvre de Michel Tremblay qui circule en ce moment sous forme d'opéra.
C'est ça.
Et donc, les chanteuses d'opéra vont être ici pour faire des passages de l'œuvre, du spectacle, ici, au Fluctuaire, sur le toit. Et donc, encore une fois, dans ce même contexte magique-là qui fait que les gens peuvent voir le spectacle sur le Fluctuaire, sur le quai ou sur le pont.
Écoute, Geneviève, toi, tu es là pour faire rayonner la culture québécoise. Par hasard, as-tu rencontré des Québécois qui sont contents d'entendre notre musique? Ou les Français? Est-ce que tu as des commentaires des gens?
Ah oui, c'est sûr. Lors de la soirée d'ouverture, justement, il y avait plusieurs Québécois qui étaient ici, puis ça leur faisait tellement plaisir. Puis d'ailleurs, Cœur de Pirate aussi, ça lui faisait particulièrement plaisir de représenter le Québec et le Canada dans le cadre du festival, parce qu'il y a des Français qui pensent qu'elle est française.
Ah oui?
Parce que, ben sa façon de chanter, puis le fait qu'ils l'ont
accent,
vraiment adoptée depuis son jeune âge. Et donc, il y en a qui pensaient qu'elle était française. Et pour elle, c'était important de le signifier qu'elle est québécoise, puis de représenter ce festival-là qui met en lumière des artistes québécois et canadiens. Ouais.
Geneviève, c'est pas la première fois évidemment que tu animes. On te voit sur toutes sortes de scènes. Enfin, quand c'est le temps de présenter des grands événements, alors évidemment tu le fais de façon magnifique. Et puis alors vraiment, t'es une excellente ambassadrice, je dois dire. Mais là, tu es en même temps au première loge pour savoir tout ce qui se passe à Paris, l'ambiance, parle-nous-en, on veut savoir.
Oui, bien c'est très particulier parce que c'est comme s'il y avait deux Paris en ce moment.
Ouais.
Le Paris des Olympiques, alors quand on est au centre de Paris, et ça c'est la Seine, les abords de la Seine et les grands monuments comme le Grand Palais, les Invalides, la Place de la Concorde, les Tuileries, tout ça, la Tour Eiffel, ben, c'est vraiment pris d'assaut par les Jeux olympiques. Alors, les sites sont clôturés parce que, bon, ben, bien sûr, c'est payant, mais aussi, il faut respecter les infrastructures. Donc, c'est des trajets qui sont créés pour que le public puisse accéder aux compétitions. Donc, on sent l'effervescence des Jeux quand on est au centre de la ville. Mais quand on s'éloigne, comme moi, je dors dans le Marais, puis j'allais me promener dans Montmartre, ben là, on sent vraiment une toute autre ambiance. C'est tranquille, c'est comme une petite vie de village parce que les différents arrondissements sont comme des petits villages finalement.
C'est ça.
Et donc, c'est très paisible. Donc, on a le choix d'embarquer dans la jungle des Jeux olympiques ou de s'éloigner puis de prendre une pause puis de marcher dans des quartiers beaucoup plus tranquilles.
Alors, quel est ton choix? Est-ce que tu prévois aller voir des compétitions? Est-ce que tu prévois sortir? C'est quoi ton programme?
Ben, ce qui est fun, c'est que mon quartier général, c'est le Fluctuaire. Donc, je peux manger ici, prendre un verre ici, rencontrer des gens ici, voir des spectacles, écouter le DJ. Il y a des arts visuels aussi avec le Festival Mural de Montréal qui présente l'artiste Le Bicard, qui est un artiste qui a fait un projet spécialement pour Scène Canada. Et c'est, il a créé, lors d'un voyage à travers le Canada, une œuvre dans chaque province. Donc, on peut voir toutes ces œuvres ici dans la cale du Fluctuaire. Et donc, il y a beaucoup à voir et beaucoup à faire au Fluctuaire. Donc, c'est vraiment ici pour moi que ça se passe.
Ouais, puis il y a du skateboard aussi.
Je donne rendez-vous aux amis ici, je donne rendez-vous à mes amis ici, tout ça. Oh. Comment?
Oui, il y a du skateboard aussi, je pense.
Oui, aujourd'hui, il y a une gang de sportifs là, du festival FIZ, qui c'est les anciens X Games. Qui sont aux abords du Fluctuaire, là, puis je pense que je vais voir des belles prouesses. Ouais.
Geneviève, on aura le plaisir de t'accueillir en studio très prochainement à ton retour. Alors, on va avoir beaucoup de choses
à dire.
Tu
vas venir passer une belle heure avec nous.
Je suis très contente de ça. J'ai très hâte. Je vous remercie beaucoup de l'invitation.
Oui, puis là, ça va nous permettre de parler davantage de tout ce que... Bien, évidemment, de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui se dit par rapport au jeu, par rapport à la cérémonie. On va sûrement papoter.
Mon Dieu, c'était tellement spectaculaire. C'était tellement grandiose.
Mais on t'envie vraiment. T'es chanceuse. Quel privilège de vivre ça.
Ben merci. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. C'est une belle aventure, vraiment.
Ah oui. Alors, écoute, continue ton beau travail. Vraiment, c'est vraiment... Nous sommes très fiers de toi. Et puis, en même temps, c'est ça. On t'envie un tout petit peu, mais juste de façon positive.
Saine,
c'est ça.
Je m'en viens vous voir en studio le 9, madame.
C'est ça. Donc, tu seras... Ben oui, parce que toi, tu restes pas tout le long de l'événement.
Il
y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève.
C'est pas nécessaire. En fait, je vais revenir à la fin du mois d'août pour... parce qu'il y a une pause de 2 semaines entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques.
Ah, c'est ça, effectivement.
Il y a quand même sur le futur. Mais je vais revenir pour la fin du mois d'août pour Robert Charlebois, entre autres, tout ça,
ça dure longtemps à cause des Jeux paralympiques qui vont suivre un peu plus tard au mois d'août. Alors voilà pourquoi finalement ton mandat va se prolonger comme ça jusqu'à la fin du mois d'août. Ben écoute, on a bien hâte de te voir.
Ouais. Des allers-retours. J'étais ici il y a un mois à la fin du mois de mai pour lancer la programmation. Je suis revenue à Montréal, je suis revenue ici, je vais retourner à Montréal et je vais revenir.
Bon, prends des petites bulles pour nous.
À votre santé.
Ouais, on se voit le 9.
Ouais, on a bien hâte de discuter de tout ça. Merci et puis à bientôt.
à bientôt, des bises. Bye.
Bye Geneviève.
Et bonne soirée à toi parce que là-bas, il est plus tard. Oui, bonne soirée.
Vous écoutez Aime l'été.
Alors, on va accueillir notre troisième invité dans cette deuxième moitié d'heure qui s'amorce. Alors, Nathalie, on a bien hâte de recevoir Geneviève. Ça va être quelque chose.
Hein? Bien, on est curieuse aussi, comme tu parlais, l'ambiance. On veut savoir comment ça se passe. On veut savoir... il y a des gens qui nous rapportent beaucoup en ce moment tout ce qui est compétition et tout ça, mais on veut entendre l'ambiance, les potins.
Oui, c'est ça. Bien, on en entend parler aussi par rapport à la cérémonie d'ouverture. Il y a plein de choses à dire. Mais enfin, chose certaine, on accueille Clément Delacroix de Ciné Ruelle. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah, je suis contente de vous parler, évidemment, pour parler de ce bel événement. Quand même, on compte pas mal de ruelles à Montréal, notamment dans le secteur où, finalement, vous présentez du cinéma en plein air pour les jeunes.
Exactement, on est cette année encore dans le plateau Mont-Royal et dans Rosemont. On va faire 40 ruelles cette année. Elles sont simultanées. Il y en a une dans Rosemont, une dans le Tateau, chaque vendredi et samedi soir. Donc, on a commencé le 28 juin et on finira le 31 août.
Et alors, finalement, c'est votre quatrième édition, je pense, hein?
Oui, tout à fait. C'est la quatrième édition déjà, les années passent vite.
Et oui, tout à fait.
Et l'engouement des gens, l'engouement du jeune public, cette tradition de regarder du cinéma... familiale, parce que les enfants sont souvent un peu les oubliés du cinéma en plein air. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de documentaires, de films de fiction, mais là, c'est vraiment, on retrouve une énergie qui existe depuis longtemps, de regarder un film avec ses voisins, ses amis. Parfois, en plus, l'été, il y a des déménagements qui sont faits, donc ça permet de rencontrer ses nouveaux voisins. Donc, c'est sous cet échange qu'on regarde un film d'animation.
C'est vrai qu'il y a ça, hein? Quand on parle de ciné-parc, on va en famille voir un film, alors que dans la ruelle, c'est les petits amis, c'est les voisins, c'est le voisinage qui se retrouve. C'est super intéressant.
Oui,
ouais, tout à fait, effectivement. Puis on a pu remarquer, c'est un peu pour ça que l'essence est née là, de ciné-ruelle, c'est que ce qu'il y a dans les parcs, ça change un petit peu, puis tant mieux. Puis je me demande si on n'y est pas un peu pour quelque chose, j'ai tendance à croire ça. Avant, il y avait vraiment peu de cinéma dans les parcs, mm-hmm, qui étaient dédiés aux familles. C'était des documentaires très intéressants, des films de fiction, mm-hmm, très sympas, mais un petit peu plus difficile d'en est son petit loup de 4, 5 ans, 6, 7 ans, voir un documentaire. Bon, là, c'est vraiment adapté à eux, puis ce que j'aime aussi, c'est cette vie de quartier, tenir cette vie de quartier, faire en sorte que ces ruelles,
exactement,
l'extension de la cour des gens puissent vivre. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche.
Oui, c'est encore plus intime, bien, évidemment, que le parc. Alors, c'est vraiment dans sa cour, dans sa ruelle, c'est particulier. Donc, il y a un sentiment d'appartenance aussi très fort. Et puis, vous savez que c'est pas d'hier. Évidemment, on pense les Grecs, là, à Athènes, enfin, ça fait dans les années 60, il y avait 600 cinéma d'été comme ça en plein air, c'est fou, hein? Ils étaient très friands de ça. Alors, bien, évidemment, on n'a rien inventé, mais notre particularité, là, en fait, dans votre cas, c'est de l'offrir dans les ruelles de Montréal. Alors, c'est ça qui est fantastique. Alors, ces ruelles qu'on valorise en même temps, c'est intéressant à ce niveau-là aussi.
Exactement. Et puis, on ne s'arrête pas aux ruelles vertes, hein? On s'arrête vraiment à toutes les ruelles. En fin de saison, on demande toujours aux gens, on fait un appel à ruelles, et puis on demande qu'ils proposent leurs ruelles. Nous, on les visite tous, on les sélectionne pour plein de raisons différentes, la sécurité, que ça couvre bien tout le territoire, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça vient directement des citoyens et citoyennes, une envie d'appartenance, une envie d'animer sa ruelle, qu'elle soit verte ou pas.
Ouais, mais pour faire vivre ce beau projet, est-ce que, bon, je pense que vous avez déjà fait appel à du sociofinancement?
L'année dernière, on l'avait fait. En fait, le sociofinancement est souvent fait pour des nouveaux projets. Donc, comme cette année, on recommençait dans le plateau et dans Rosemont, sur le plateau et sur Rosemont, eh bien, on n'a pas fait de sociofinancement. On a la chance d'avoir un super partenaire qui est avec nous depuis le début, qui sont les caisses des jardins de chaque arrondissement. Donc là, on a la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal, de l'Est de l'île, de Cœur de l'île, de la Petite Italie. Donc c'est eux-là, vraiment, ils tiennent depuis le début. Puis on a aussi tous nos élus municipaux de Rosemont et du Plateau, et puis provinciaux et fédéraux, on les a tous. Et on les remercie parce que c'est eux qui mettent qui nous aident. Parce que malheureusement, on n'a pas la chance de rentrer dans aucune subvention. Donc
qui est problématique pour vous?
on est trop communautaire, trop culturel ou pas assez culturel, on s'envoie un petit peu la balle, donc
pas assez de ça, finalement. Ouais, un peu ça.
Exactement, mais enfin, en tous les cas, pas de subvention.
Parce qu'il faut le mentionner aussi, c'est gratuit. Les familles ne paient rien, là.
Tout à fait.
C'est ça, donc c'est gratuit.
C'est le but, hein.
Ouais.
Oui, oui, le but, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Hein. Ça coûte cher, maintenant, d'aller au cinéma.
Oui,
hein.
Effectivement.
Il y a une famille de 4, 15 $ la place, on est déjà à 60 $. J'ai même pas parlé qu'on ait pris des pop-corns ou quoi que ce soit. Enfin, puis j'ai pas parlé de l'essence, s'il fallait se déplacer, le tout stationnement. Là, c'est apportez votre chaise, on arrive, on se positionne, on a une chaise, là, la projection est projetée par l'arrière, donc tout l'avant est vraiment complètement disponible, des enfants qui se mettent à 2 pouces de l'écran, mais c'est complètement gratuit, vous pouvez venir avec vos voisins, des amis qui habitent plus loin, des amis qui habitent dans un autre quartier,
Arriver avec le pique-nique.
Ben, tout à fait, le pique-nique. Et puis, ben, justement, on en parlait avec Nathalie, tout cet aspect nostalgique hein, de notre enfance, c'est marquant pour ces jeunes-là. Souvent, ils vont garder de précieux souvenirs. Ça va être mémorable souvent pour eux.
Oui, tout à fait. Puis on a deux petits exemples qui sont que moi, j'aime me rappeler. Le premier est effectivement très nostalgique. On a eu une ruelle où une dame d'un certain âge me dit « Ah, oh, c'est drôle, à l'époque, on avait un voisin qui nous faisait ça avec un petit drap, etc. » Puis j'amenais mes enfants. Et elle dit « Là, cette année, c'est mes enfants qui viennent avec mes petits-enfants voir une ruelle. » Donc on trouvait ça assez sympa, cette effectivement, ils gardaient des souvenirs. Puis, plus actuel, on a aussi des enfants et des parents qui nous disent « Il a attendu ça toute la semaine. » Toute la semaine, on comptait les dodos pour quand est-ce qu'il y aurait le cinéma dans la ruelle.
Et oui.
Ben, c'est parfait.
Et puis là, ben, vous avez combien de films par été, là? Parce que c'est pas terminé, là. On en a quand même présenté quelques-uns, bien sûr. C'est comme vous dites, tous les vendredis et samedis soirs dans 40 ruelles de Montréal. Et puis, alors, combien de films ça représente? Un à chaque semaine?
Oui, c'est ça. Il reste 5 fins de semaine, donc il y a 5 films encore, parce que dans la fin de semaine, on fait passer un film. Donc, cette fin de semaine prochaine, c'est le film québécois « La légende du papillon » qui aura lieu le vendredi et le samedi dans les deux arrondissements, donc 4 fois au total. Puis après, on change de film jusqu'à la 5e qui arrivera la dernière semaine du mois d'août.
Alors, on parle de dessin animé. La légende du papillon, c'est du cinéma d'animation. Mais je l'ai vu ce film et je dois avouer que même en tant qu'adulte, j'ai apprécié. Alors, c'est seulement pour les enfants, là.
Mais est-ce que c'est pas... Parce que évidemment, bon, est-ce qu'on peut le dire, Catherine? Est-ce que ce serait pas ta fille qui a fait le doublage des personnages?
Ma fille est doubleuse, puis elle a fait un des personnages.
Ah, c'est ça. Ben oui, ça explique aussi que la maman a vu le film, bien entendu. Alors, à moins d'avoir nos petits-enfants, mais c'est ça qui arrive, hein, c'est quand on commence à avoir soit nos enfants jeunes ou nos petits-enfants, c'est là qu'on retrouve le bonheur, le plaisir d'aller dans ces événements-là, de voir du cinéma d'animation. Souvent, on est moins friand, bon, à l'âge adulte, parce qu'on a d'autres films à voir, mais c'est ça, quand on retrouve ce plaisir-là, c'est vraiment très chouette, là. Alors, Ciné Ruelle, c'est vraiment pour les parents, les grands-parents, c'est vraiment, vraiment à connaître, en tout cas, chose certaine.
Et puis, je rebondirais même, c'est qu'on fait attention à la programmation, parce que cette année, on a mis Shrek, justement pour que les grands-enfants aient un peu de nostalgie.
Ouais. mais il faut savoir aussi que Shrek, c'est un film qui est aussi dédié aux adultes.
Oui, c'est pour ça que je dis ça,
C'est ça. On en reparlera parce qu'il y a des farces, des jokes un peu grivoises à certains endroits que les enfants ne comprennent pas. Alors, je pense que Shrek fait plaisir à tout le monde.
Alors, c'est vraiment une belle mission. Et puis, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Bien sûr, ce concept-là. Et d'ailleurs, vous-même, bon, est-ce que vous avez assisté souvent, jeune, à du cinéma comme ça, en plein air? Bon, d'abord, l'idée de départ, elle est partie d'où?
Alors, justement, l'idée de départ, elle est partie comment? J'avais déménagé dans un nouveau quartier et je me souviens que je suis arrivé dans mon nouvel appartement un soir, il faisait déjà un petit peu nuit et tout, puis j'entends dans le jardin du bruit. Je pousse la porte du jardin et là, je vois tous mes voisins en train d'écouter un film, je crois que c'était La guerre des Tuques, et je les vois tous entre eux, en train d'un film et tout. Je me souviens m'être dit, oh, je vais être bien ici.
Oh.
ce sentiment de partage, de communauté, etc. Je me suis dit, on va être très bien. L'année d'après, la pandémie est arrivée. Mm-hmm. Puis moi, je travaillais déjà dans ce milieu-là. Et puis j'avais pas mal sympathisé avec mes voisins. Je leur avais dit, écoutez, je m'occupe de tout. Je vous fais un beau setup pour faire un film, puis amener vos enfants. Et en fait, j'ai dit ça à deux voisins, j'ai fait ça, je me suis retrouvée avec 60 enfants.
C'est parti d'un événement comme ça. Et puis, bon, alors vous en faites maintenant partager à plein de monde. Vous savez que Montréal compte quand même plus de 4000 ruelles. Alors, vous avez encore du chemin à faire. Et puis, mais savez-vous aussi que, bon, bien évidemment, les ruelles, c'est vraiment notre patrimoine, mais c'est ça, il y a quand même aussi un livre qui est sorti sur les ruelles cette année, en mars dernier. Alors, sûrement que nous allons en parler, en fait, les ruelles de Montréal comme lieu de socialisation, ou encore, peut-être on s'interroge si ce ne serait pas un vecteur de gentrification. Enfin, c'est intéressant comme point de vue. Alors, finalement, les ruelles, ça fait jaser tout le monde. Alors...
Ah oui, effectivement, je crois même qu'ils étaient passés nous voir, donc ceux qui ont écrit le livre. Donc,
Et si les gens veulent aller, parce que bon, il y a le voisinage, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le voisinage qui peuvent aller voir les films? Ou comment les gens font pour savoir? Ah, c'est ça, mais comment les gens font pour savoir où il y a des représentations?
Alors, ben, il y a rien de plus simple. Cinéruelle.com. Cinéruelle, ça prend un S parce qu'on va dans plusieurs ruelles. Là, vous avez toute la programmation. Il y a aussi une carte interactive qui vous permet de vraiment bien voir où on va aller exactement. Et puis sinon, vous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Cinéruelle, tout accroché avec un S.
Eh bien, Monsieur Delacroix, ça a été un charme encore de vous parler. On s'était parlé aussi, je pense, l'année dernière ou enfin l'année d'avant.
Ouais,
c'est ça, l'année dernière. Alors, c'est un plaisir de vous avoir reçu encore une fois. Alors, Clément Delacroix, Cinéruelle, ça continue. On va sur votre site Internet. On aura toute la programmation.
Exactement.
Alors, merci infiniment.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Section de la Maine et de la Catherine, une vitrine vibrante de l'histoire de la métropole s'illumine. Le centre d'histoire de Montréal deviendra le même. Un espace ouvert sur la ville et à la fine pointe de la technologie expérientielle, qui offre un lieu de rencontre et de découverte évolutif au confluent de tous les quartiers, de toutes les cultures, de toutes les époques. Un nouveau pôle identitaire et rassembleur, moderne, pour mettre en lumière le patrimoine le plus important de l'histoire de la métropole, les Montréalais.
Et voilà, c'était la bande-annonce. Enfin, c'était pas nécessairement tout récent, c'était au moment de la, de l'annonce de ce projet-là. Catherine Charlebois, on l'accueille. Alors, vous êtes de Centre de mémoire montréalaise, et qui était autrefois le Centre d'histoire de Montréal, effectivement.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Ouais. Alors, c'est ça, c'est vraiment ce centre d'histoire qui était situé dans le Vieux-Montréal, dans une ancienne et superbe caserne de pompiers, d'ailleurs. Là. C'était magnifique. Et puis, bon, c'était installé là depuis 1983. Mais là, évidemment, il fallait rafraîchir tout ça. Et puis, ce beau projet là qui est arrivé, donc, du même, là, effectivement, le centre de mémoire montréalaise. Est-ce que je dis, pourquoi je dis montréalaise? C'est bien ça, montréalaise? C'est
oui, c'est le centre des mémoires montréalaises.
Ah ben voilà, OK. J'étais pas certaine là, si j'accordais bien.
Oui.
En direct, des fois, comme ça, là, on est plus sûr de rien. Bon, alors, parlez-nous de ce projet. D'abord, vous êtes ouvert depuis l'an dernier, là.
Ben oui, en fait, on est ouvert au public. Nos espaces, on a des espaces publics gratuits, une exposition temporaire, des lieux à découvrir. Tout ça était ouvert, une boutique café, tout ça était ouvert depuis octobre dernier. Et puis, le dernier venu, et non le moindre, c'est notre exposition permanente qui a ouvert au public il y a deux semaines.
Parfait. Donc, l'exposition permanente, là, c'est vraiment axé sur Montréal. Et puis, effectivement, vous continuez un petit peu la tradition de ce que c'était le Centre d'histoire de Montréal, au fond. Vous avez un peu repris l'essence même, mais vous l'avez bonifié.
Ben oui, ben en fait, on est la même... On pourrait dire c'est la même institution qui continue, mais qui disons, qui a changé de garde-robe. Là.
Oui, le garde-robe est plus grand, plus beau.
Oui, exactement. Là, on est dans le mode de walk-in. Là.
C'est très drôle.
Fondamentalement parlant, je veux dire, de parler des Montréalais, parler des Montréalais et des Montréalaises, de la ville, de ce qui les anime, les habite, leur histoire au fil du temps, ça demeure notre mission. Ce qui change, ben c'est effectivement l'appellation qu'on a élargie. Au lieu d'être juste un centre d'histoire, on dit bon, mémoire montréalaise, c'est un peu plus large. On va proposer des sujets très contemporains. Et puis on se voit aussi comme un lieu culturel, pas juste un musée d'histoire. Donc on voulait élargir un peu cette mission-là. Mais aussi le lieu, effectivement, là, de se déplacer du Vieux Montréal pour être au centre-ville, là, au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, une proximité peut-être un peu plus grande avec les Montréalais,
oui,
Montréalaises, peut-être dans un quartier plus touristique. Mm-hmm. Nous, c'est notre public, c'est notre premier public, là, la population montréalaise. Donc, ça faisait beaucoup de sens, mais en même temps aussi, c'était une opportunité de déployer nos ailes davantage, de pouvoir en faire plus, pour pouvoir en offrir plus aussi, mais aussi un lieu de référence, d'offrir un lieu de référence aux citoyens, aux citoyennes, là, parce que, comme je disais, on a quand même le tiers des espaces qui sont des espaces publics, gratuits, accessibles gratuitement. C'est on voulait aussi que ça soit comme un genre de lieu de foyer de Montréalité, un lieu de rencontre où les gens pouvaient se reconnaître leur ville. Donc, il y a cette partie-là aussi qui est toujours offerte et accessible au quartier, au cœur du quartier des spectacles, qui offre beaucoup d'activités culturelles, mais d'un point de vue patrimonial, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Donc, on avait le désir d'offrir ça aux Montréalais.
Ce que je trouve intéressant, c'est que oui, on parle de la ville en tant que telle, mais vous mettez en valeur aussi des centaines de témoignages des Montréalais.
Oui.
C'est ça qui est le fun aussi. On s'y retrouve,
Bien, tout à fait. Puis on retrouve... Montréal est raconté par des gens qui y vivent.
C'est ça,
et puis,
exact.
Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est pas juste le musée qui raconte l'histoire de Montréal, mais nous, notre... une mission qu'on se donne, c'est d'aller collecter les mémoires des Montréalaises, des Montréalais. On fait ça depuis près de 20 ans. On en a 700 témoignages dans notre collection, parce que tous ces témoignages-là vont aller dans notre collection aussi. Mm-hmm. Donc, ils sont là pour la postérité, comme nos collections d'objets. Et puis, ben c'est présenté. Donc, ça peut être des extraits, des citations, mais il y a beaucoup d'extraits vidéo, audio. Donc, on nous raconte l'histoire de Montréal, mais on rencontre, entre guillemets, aussi d'autres Montréalais. Qui ont fait l'histoire ou pas, qui racontent, qui font de l'histoire ou pas. Donc, il y a autant des experts, mais qu'il y a du monsieur, madame, tout le monde là, qui...
Exact, vraiment. Et puis, ben évidemment, la Montréalité a bien changé aussi depuis le début, là, si on réfère encore au Centre d'histoire de Montréal. La diversité des identités montréalaises aussi, bon, évidemment, tout ça s'est bonifié. Et puis là, ben toutes ces expériences humaines inclusives, authentiques, où les citoyens, citoyennes se racontent et se rencontrent, comme vous disiez, là, vraiment, c'est un lieu privilégié. Alors, justement, parce que, bon, longtemps, la Montréalité, bon, on pensait à Michel Tremblay, on pensait à Beau Dommage, on pensait... Mais évidemment, ça a pris toutes sortes d'autres couleurs, bien entendu. Mm-hmm. Et c'est en ce sens-là que le musée aussi apporte une expérience nouvelle au Montréalais.
Ben oui, mais sans mettre de côté toute cette histoire-là, toute cette
triste non, bien
histoire-là,
sûr, oui.
Tout à fait. Là.
On peut autant retrouver le petit fameux casse-croûte de l'époque, d'une certaine époque, là, puis on est accueilli par des enseignes lumineuses, justement, qui finalement, qui proviennent de commerces emblématiques de Montréal.
Oui, tout à fait. Les lieux sont assez spectaculaires. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir voir, ça vaut vraiment la peine de rentrer pour au moins de venir voir nos espaces publics. Mais oui, effectivement, les enseignes. Mais ce qu'on cherche à faire beaucoup, quand vous disiez les multiples couleurs, la moralité qui a changé, notre approche est dans un souci, oui, d'inclusivité, à inclure toutes les histoires, mais c'est de les intégrer à travers le narratif, à travers ce qu'on voit, à travers l'expérience de visite. C'est-à-dire qu'on va pas nécessairement sectorialiser ou faire des sections, c'est genre ah ben ça, c'est l'endroit où on parle des Autochtones, ou ça, c'est les endroits où on parle de l'immigration, ça, c'est les endroits où on parlait, de l'époque de la Nouvelle-France ou de la colonisation. Non, on fait pas ça. En fait, oui, il peut y avoir des trames, des lignes du temps là pour pouvoir avoir des repères, mais on va toujours chercher à faire en sorte qu'on sent qu'on est intégré à toute cette grande histoire-là, peu importe le profil que l'on a, peu importe d'où on vient. Pour comprendre que, dans le fond, cette variété-là de couleurs, elle est là depuis super longtemps. Là.
Exactement, parce qu'évidemment, alors vous voulez dire qu'au fond, c'est fait de façon très fluide. Là. Il n'y a pas de...
Ouais.
On parle autant de la colonisation, les vagues successives d'immigration. Bien sûr, alors les nations autochtones sont représentées, c'est sûr, mais de façon plus fluide. Là. C'est pas vraiment juste par section, là, puis très divisé. Non, c'est vraiment... Tout est intégré, finalement. Là-dedans. Ouais.
Ben oui, puis c'est un grand souci qu'on avait particulièrement dans l'exposition permanente de trouver une façon de raconter l'histoire de Montréal, mais d'une autre façon. Il y a toujours comme des grands narratifs ou la façon traditionnelle de raconter l'histoire. Puis là, notre souci, c'est de dire comment on peut rebrasser ça pour avoir l'impression qu'on revisite la ville, puis que je sois, tu sais, comme Montréalais, Montréalaise depuis toujours ou pas. Je vais m'y retrouver, mais je vais aussi découvrir des choses ou découvrir d'autres perspectives. Donc, la question d'avoir plusieurs perspectives, plusieurs points de vue, des histoires qui viennent de différents parcours, que ce soit des parcours d'immigration ou de migration. Je suis venue de d'autres régions de Montréal, du Québec, et j'arrive à Montréal. Et puis que tout ça, une fois quand on décide qu'on habite, qu'on va habiter à Montréal, parce que c'est souvent une communauté. Qu'est-ce que ça fait comme impact, tu sais, sur le reste de la ville, pour son histoire, toutes ces populations-là qui sont arrivées, tous ces gens-là qui ont décidé que Montréal deviendrait leur lieu de résidence. Puis là, je parle de peut-être que c'est une décision qui a été prise il y a 20 ans ou une décision qui a été prise il y a 400 ans.
Exact, oui, c'est fascinant.
Ça a un impact dans le temps. Là, on se retrouve ici parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui a décidé qu'il prenait le bateau puis qui arrivait en 1542. Là,
exactement. Donc, c'est tout ça qu'on va un peu ressentir à travers cette exposition permanente. Et puis, vraiment... Et puis, en même temps, il y a aussi un souci d'inclusivité, de diversité, comme je le disais, mais vous êtes assuré aussi d'inclure des contenus illustrant aussi la réalité des personnes en situation de handicap en même temps.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment super important dans le processus. On a travaillé avec plusieurs comités différents, mais il y en avait un qui était en accessibilité. Donc, même à la conception du projet, comment non seulement on peut rendre les lieux accessibles, là, tu sais, pour que ça soit des personnes en diverses situations de handicap, mais l'idée, c'était aussi de les voir et dans les contenus. C'est souvent l'aspect dans une exposition ou qu'on va construire un musée, on va penser à peut-être, le côté de construire pour que les gens puissent y avoir accès. Mais par exemple, dans l'histoire de Montréal, l'histoire des personnes en situation de handicap, elle en fait partie. Surtout que Montréal a été un lieu très, très, très important, très fédérateur pour plusieurs membres de ces communautés-là. C'est devenu très important. Puis les gens, s'ils nous disaient, nous, on se voit pas quand on va dans une exposition sur Montréal ou dans un musée, mais là, on aimerait ça se voir. Là, ça, c'est quelque chose qu'on a pris en compte aussi, mais c'est grâce à ces consultations-là, c'est grâce à la présence des personnes représentant ces communautés-là qu'on a pu injecter, être sensibilisés aussi à ces diverses réalités-là.
C'est ça.
Donc, effectivement...
De l'inclure dans le contenu même de l'exposition.
Exactement, oui. On va justement, à la fin de l'exposition permanente, on a demandé à différents Montréalais et Montréalais de nous faire visiter leur ville selon leur point de vue. Puis justement, on a Maud qui est en chaise roulante et qui nous fait visiter son Montréal, mais de son point de vue à elle.
C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose... qui bonifie l'expérience. Il y a évidemment aussi toute l'encyclopédie en ligne. Alors, évidemment, ça, c'est des connaissances incroyables là-dedans à trouver. Vraiment, ça, c'est aussi à découvrir en même temps. Il y a des choses intéressantes à voir aussi en ligne. Alors, vraiment, c'est très... vraiment, c'est un musée qui gagne à être vu absolument, là. Puis, d'ailleurs, vous êtes bien placé maintenant dans le quartier des spectacles et tout.
Rappelez-nous précisément, vous êtes situé où?
En fait, l'adresse, c'est le 1210 boulevard Saint-Laurent. Et puis, facilement accessible, que ça soit...
Facilement accessible, on l'a perdu.
Et tout à l'heure, où le place
d'armes. Ah ben là, facilement accessible, j'imagine que vous vouliez dire aussi par métro, par transport en commun et tout. Alors, c'est sûr, puis bon, évidemment... vous êtes, on est aux premières loges dans le quartier des spectacles, c'est sûr, pour découvrir ce musée. Alors, vraiment, merci d'être venue nous en parler, Catherine Charlebois. Vous êtes responsable du Centre de mémoire montréalaise. Il y aura des activités aussi, il y a différentes activités, le volet éducatif, on n'en a pas parlé, mais il y a plein de choses aussi à découvrir de ce côté-là. Pour les jeunes, pour les groupes aussi.
Pas juste pour les groupes, regardez, sur notre site web, nous avons...
Alors, ben, on vous perd malheureusement le son. Je sais pas, des fois, ça nous arrive en fin d'entrevue.
Alors, elle disait que c'était pas juste pour les groupes.
C'est pas juste pour les groupes, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, Catherine Charlebois. Eh ben, nous, Nathalie.
On se retrouve demain. Hein?
Mais oui, c'est ça. Aime l'été, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais d'autres beaux sujets à venir demain, jeudi. Ce sera notre avant-dernière journée de la semaine.
Et vendredi aussi, on a un artiste invité.
C'est ça. Donc,
une personnalité connue.
Oui, une personnalité connue. On va passer l'heure avec. Bon, ben, merci bien d'avoir été là, tout le monde. Et on se retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h. Aime l'été. Au revoir. Bon après-midi.